danger, my little stranger, 'cause I feel you and you feel me. Give me the wave, my little DJ, 'cause you and me are on the way. In EAGJET FM, pour qui je suis honnête, écoute la barre, j'ai la fortune russe. Aujourd'hui, Bargerus 1208, l'imagination illibérale. Donc, on va s'appuyer sur différents ouvrages, notamment l'imagination sociologique des éditions La Découverte par Charles Wright Miles, you know, yes, and un vieux bouquin que j'avais, enfin que j'ai retrouvé, que j'ai ressorti, qui est vraiment à chaque fois qui me surprend, qui est très fort. Ça s'appelle Le Moment illibéral de Ivan Krastev et Stephen Holmes aux éditions Fayard de 2019. La découverte, ça date des années 50, 59, et ça a été réédité, là. Voilà. Ensuite, je vais commencer, avant tout, n'est-ce pas, par Le Monde du vendredi 28 février 2025. Alors, pas parce qu'il y a forcément quelque chose, mais c'était parce que, suite à la lecture de ce journal, je me suis dit, alors, écoutez bien, le monde va un peu mieux lorsqu'on ne s'y intéresse pas. Parce que, quand on lit ça, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? Parce que, pour aller mal, peut-être. Alors, la première page, c'est entre la France et l'Algérie, la crise s'aggrave. Donc, déjà, ça commence. Ensuite, avec Trump, la poutinisation de la politique américaine. Ok, après, les accords entre... Là, il n'y avait pas eu encore le clash entre Zelensky et Trump. C'est après qu'il est apparu. Et ce journal est sorti la veille ou l'avant-veille, pour quelques jours avant. Accord sur les minerais entre Kiev et Washington, etc. Après Israël, Gaza, incertitude sur la suite du cessez-le-feu. Manœuvre chinoise attirée au large du Taïwan et de l'Australie. L'explosion des violences sexuelles. Cancer lié aux pesticides. Les accords migratoires entre la France et l'Algérie. Et ça se calme jamais, hein. Réforme des retraites, bon, ça se calme, c'est une façon de parler. Manuel Valls enquête d'un compromis à Nouméa, etc., etc. Attentat de la basilique de Nice perpétuité, oui, réelle pour l'auteur. Bon, moi, bon, je m'arrête. Ça continue comme ça, je sais pas... Donc on va commencer par l'imagination sociologique de Miles, je crois. Donc on est en 1959, ok. Je cite. On peut très bien concevoir les types de structures sociales en fonction d'ordres institutionnels comme le politique et le familial, le militaire et l'économique, le religieux. On les définit de manière à les faire apparaître dans une société donnée, puis on cherche à savoir quel rapport ils entretiennent les uns avec les autres. En somme, comment ils donnent à eux tous une structure sociale. On organise les réponses de manière à faire surgir des modèles de travail. Ok. Voilà. On peut imaginer que le modèle est un champ d'institution animé par le même principe structurel. Donc là, on commence à se dire qu'on est dans la construction d'un système, quoi. On appartient. On est fait... Enfin, oui. On va élargir ça. En économie, c'est le laisser-faire. Dans le domaine religieux, une multitude de sectes et de chapelles se livrent... Alors ça, c'est aux États-Unis. Se livrent ouvertement, concurrence, sur le marché du salut éternel. Bon. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? Ça, c'est à eux de voir. Les institutions de parenté sont fondées sur l'offre et la demande de mariage, etc. Dans l'ordre politique, les partis s'arrachent les suffrages des individus. Même dans l'ordre militaire, grande est la liberté de recrutement de la milice de l'État et en un sens d'ailleurs fort important, on peut risquer la formule un homme pour un fusil. C'est le primat que chaque ordre d'institution accorde à la libre initiative d'hommes indépendants qui vivent sur le mode de la concurrence. C'est américain, ça. La société libérale classique trouve à s'unifier dans le principe de cette correspondance même. Et là, on dit, enfin, je vais sauter des trucs, mais en fait, tu vois, on est dans une démocratie, dans une dite démocratie qui n'a jamais été réelle, en fait, même à l'époque de la Grèce, hein, enfin, de la première, je dirais. C'est une illusion. Ça, on le voit plus dans le moment illibéral, mais là, il fallait que je vous le dise maintenant. On vit dans une illusion. Je cite dans le moment illibéral. Le capitalisme était conçu pour l'enrichissement d'une minorité de prédateurs, mais aussi que la démocratie occidentale était un système habilement construit pour le maintien d'une domination de classe. Vu sous cet angle cynique, la démocratie ne comportait aucune obligation de responsabilité des politiciens envers les citoyens. Au contraire, l'illusion d'une responsabilité démocratique contribuait à masquer et à préserver l'autonomie de la classe politique au pouvoir. Par l'illusion. Ok, on vous donne, c'est vous qui choisissez, mais c'est une illusion pour que la classe politique reste au pouvoir, qui, dans l'ensemble, n'avait jamais été choisie dans le cadre d'une élection transparente à plusieurs candidats. Je continue. La technologie politique fondée sur la conviction que la démocratie se limite à une simple stratégie non violente de soutien au pouvoir d'une élite était soumise à l'épreuve d'une opinion publique qui, de manière inexplicable, croyait que la démocratie donnait au peuple le droit de répliquer. Et est-ce qu'on a le droit de répliquer? Alors, bah, oui, on a le droit. Mais est-ce que ça va donner quelque chose? Eh ben non, non. Ça sert à rien, en fait, hein. Non, c'est une illusion.
Never mind the rest, for he would you clear up to the end, and you pass your multiple to test if the man in the glass is your friend. You know, like Jack Horner, to chisel a plum and think that you are such a wonderful. You only a bum if you can't look him straight in the eye. He's a fella to please, or never mind the rest. For he would you clear up to the end, and you pass your most difficult test if the man in the glass is your friend. And get pats on the back as you pass. But your final reward will be the heartaches of tears if you cheated the man in the glass. Hey, get me on. Oh, now.
On a pu écouter The Man in the Glass par James Brown. You know, baby, I know, thank you very much. Donc, je continue avec cette fois l'imagination sociologique de Miles dans son chapitre La suprême théorie. Le mouvement nazi, bon, c'était assez récent à l'époque, mais on en parle toujours hein, depuis que c'est terminé. Quoi. C'est pas vraiment. La Deuxième Guerre mondiale, on va dire, qui a fait naître le mouvement nazi. Enfin, c'était avant, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Donc, le mouvement nazi met à profit le désespoir populaire qu'elle provoque, surtout celui de la petite bourgeoisie, et fait coïncider l'ordre politique, l'ordre économique et l'ordre militaire. L'un des partis accapare et reconstruit l'ordre politique en faisant disparaître ou en absorbant ses rivaux. Pour ce faire, le parti nazi doit trouver des coïncidences d'intérêt avec les monopoles de l'ordre économique et certaines élites militaires. Les grands milieux d'affaires sont prêts à financer le parti nazi qui leur promet d'écraser le mouvement ouvrier. Bon, parfait. Coordonner le reste de la société. Les institutions religieuses non noyautées ou neutralisées. Ce rapprochement par rapport au nazisme, je trouve qu'il colle vraiment aussi hein, aujourd'hui, quoi. Quand tu vois, vous avez vu, certains politiciens américains, ils vont à tour de bras avec le salut nazi, et après, ils disent « Ah, mais non, je dis bonjour à la foule de cette façon-là ». Bon, bah, c'est étrange, c'est pas une façon... il y a vraiment des convictions qui concernent ces personnes qui sont très douteuses. Continuons. Il y a un nom, comme le truc qui est arrivé à Musk, mais bon, ça c'est un exemple. Mais il y en avait un autre là que j'avais vu. Les noms, à la limite, on s'en fout pas. Mais... Il y a des gens qui sont comme des personnes comme ça, quoi. Alors, nous parlions de Elon Musk. Voilà, j'ai annoté Musk. Alors, on est dans le chapitre plusieurs types d'empiricité, toujours dans l'imagination sociologique de Mills. La communauté universitaire américaine s'est laissée gagner par la morale de l'empiricité avec laquelle elle a partie liée. Au-dedans comme au-dehors, les hommes formés par les écoles de hautes études entrent comme experts au service de machines administratives. Cela rétrécit le champ de leur attention et celui de la maigre pensée politique qu'ils pourraient nourrir. En tant que groupe, les sociologues américains se sont rarement engagés dans la politique, pour ne pas dire jamais. Le rôle de technicien, donc c'est là que j'ai mis Musk entre parenthèses, n'a fait qu'encourager leur vision apolitique, réduire leur engagement, si c'est possible, et à force de la laisser en friche, leur intelligence des problèmes politiques. Parce que bon, Musk, on peut pas le désigner par un mot comme sociologue ou autre chose. Mais il est dedans, quoi. Il a réussi à s'infiltrer dans la politique. Bon, il y a moyennant beaucoup d'argent, je pense, étant donné que c'est un des hommes les plus riches du monde et un des plus influents. Il s'ensuit que la situation de l'intellectuel américain lui permet d'embrasser la nouvelle empiricité sans entorse idéologique et sans mauvaise conscience politique. Il serait donc ingénu et inexact de parler de veste retournée. Mais Musk, quoi qu'on en dise, c'est un mec qui est intelligent. Il a des... Ce qu'il pense, ça... C'est intelligent ou non, c'est pas de ça que je parle. Je parle qu'il est malin, quoi. Et malin à un point, là, ça relève de l'intelligence. Il y a plusieurs côtés de l'intelligence, bien sûr, mais... Et d'ailleurs, tout à l'heure, en lisant le journal, je disais, avec Trump, la poutinisation de la politique américaine, je pense qu'il y a Musk qui est comme ça. Même si déjà, en 2019, à son premier mandat à Trump, il avait plus ou moins arrangé les trucs dans les guerres de Moyen-Orient. Mais voilà, j'y crois, avec Poutine, j'y crois pas. J'y crois pas trop parce que Poutine, l'anti-occidental, mais né, quoi. Il irait serrer la main de... Oui, il serre la main de Trump, mais ça, c'est pour les photos. Mais je veux dire, il irait du côté de Trump, pour l'argent. Bon, Moi, je trouve ça vraiment. Trump, il a un truc dans, derrière, quoi. Mais, je veux dire, Poutine pense autrement. Et Trump aussi, avec Musk. Donc, c'est comment ça. Faut vraiment. Ça commence à foutre un peu les ch'touilles, quoi. Quoique, au fond, moi, je m'inquiète pas plus que ça, mais il y a, comment aussi, Erdogan. De la Turquie. Et lui, il faut vraiment s'en méfier aussi, hein. Ah ouais. Parce que lui, c'est vraiment le système politique, quoi. Au début, il voulait se servir de la politique pour la religion, pour l'islam. Et à la fin, il s'est servi de l'islam pour ses vues politiques, quoi. Donc, tu vois, et vraiment, c'est des trucs politiques, tout ça. Donc, est-ce que vraiment. Mais Musk, c'est pas un politicien. Peut-être que aussi, en fait, mais bon. Plus loin, dans le chapitre éto-bureaucratique dans l'imagination sociologique, ce qu'on a appelé ces dernières années la nouvelle science sociale ne désigne pas seulement l'empirisme abstrait, mais aussi l'empiricité illibérale. On est en 1959. Alors, illibéral, c'est sur un mode de concurrence établi par un système qui ne développe aucun cadre théorique qui donnerait un sens ou une valeur. Donc là, à penser, à comprendre que l'illibéralisme, c'est. Je suis Trump. Je suis Trump et je vous dis, bon, alors, ok, je vous laisse votre liberté. Hein. On va toujours rester dans l'illusion. Hein, okay. Alors, je vous donne votre liberté. Mais vous êtes. Libéral, vous travaillez pour vous. Mais en fait, vous ne travaillez pas pour vous. C'est moi qui ai construit. Enfin, c'est moi. C'est le système qui a construit un truc. Mais on est dans un système plutôt illibéral, mais illibéral parce que vous croyez qu'on est dans le libéral. Voilà, c'est ça. Vous croyez que vous êtes libre. Et en fait, non, vous ne l'êtes pas. L'homme aligne ses problèmes sur les méthodes, les théories et les valeurs. C'est en fonction d'elles qu'il les formule et qu'il les hiérarchise. Il a eu tout du mal, ceci. L'idée d'une nature humaine comme à l'homme en tant que tel viole le principe de spécificité sociale et historique que réclame un bon travail de sciences humaines. Parfois nous vient l'envie d'aller plonger dans ces mystères, de sentir que nous y participons, et peut-être le faut-il. Mais, en occidentaux que nous sommes, nous étudions aussi l'humaine diversité, ce qui revient à écarter les voiles du mystère qui la dérobe à nos yeux. Ce faisant, n'oublions pas l'objet de notre étude, sachons que nous savons peu de choses sur l'homme, sur l'histoire, sur la biographie et sur les sociétés dont nous sommes tout ensemble les créatures et les créateurs. Et en fait, là, il parle du côté invisible, ce que moi j'appelle le côté invisible plutôt. Cet autre côté où tout est, enfin, tout est beau. Et c'est où là-bas où tout se produit. Et c'est de là-bas que je fais mes émissions de radio. Là où je vous parle, moi je suis du côté invisible en ce moment. Quand l'émission sera finie, je reviendrai dans la réalité. De mon point de vue, en tout cas, c'est le côté invisible. Tout dépend des contextes, des atmosphères, des connexions, des contacts. Ouais. Là, par exemple, est écrit le comportement sexuel de l'homme cache un postulat erroné. Ce n'est pas un livre sur l'homme, mais sur des Américains du milieu du XXe siècle. Donc là, pour revenir sur les contextes, quoi, tu peux pas écrire un livre comme ça. Donc le titre, le comportement sexuel de l'homme, c'était le titre du bouquin. C'est un exemple que je vous donne qui est présent dans le livre. Il faut ramener les choses. Sauf que bon, là, on parlait à l'instant de Poutine et Trump et tout ça, et Musk. Ça, c'est le contexte est mondial cette fois. Aux retombées pouvant être aux retombées mondiales. Mais, comme j'ai dit aussi, pour l'instant, moi, je pense que Trump, c'est un showman, quoi. ce qu'il disait sur Gaza, faire la côte vraiment les pieds dans l'eau. Mais ça c'est du show. Pour moi, c'est de la connerie. Quel Américain, même le plus riche, quoi. Bon. Donc on a pu écouter Secousse par Manu Dibango. Et maintenant, si je reviens encore à... Je vais revenir sur le moment illibéral de Ivan Krastev et Stephen Holmes. Le capitalisme était conçu pour l'enrichissement d'une minorité de prédateurs, mais aussi que la démocratie occidentale était un système habilement construit pour le maintien d'une domination de classe. Vu sous cet angle cynique, la démocratie ne comportait aucune obligation de responsabilité des politiciens envers les citoyens. Au contraire, l'illusion d'une responsabilité démocratique contribuait à masquer et à préserver l'autonomie de la classe politique au pouvoir qui, dans l'ensemble, n'avait jamais été choisie dans le cadre d'une élection transparente à plusieurs candidats. Donc ça, je vous l'ai lu tout à l'heure déjà. Ceci, voilà. Dans ce livre est aussi présent donc, Trump, Poutine et Xi Jinping. Pourquoi l'Occident a perdu la paix est en sous-titre. Les Chinois étaient experts en matière de représailles économiques et politiques douloureuses, contrairement aux Américains qui n'étaient que des novices. Ils pouvaient calibrer leurs droits et de douane pour affecter... etc. Mais en fait, là, ils disent bien que... je vais pas tout vous dire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de trucs à lire, mais ils disent bien qu'en fait, la Chine, déjà depuis longtemps, mais selon le modèle américain, capitaliste, mais en gardant une centralisation dite communiste, enfin pour vous la faire rapide quoi, et ben ils dépassent tout ça, et ils dépassent les États-Unis quoi. Et mais sa vision d'America First à Trump vise à ce que les produits américains supplantent tous leurs rivaux sur le marché mondial. Il veut ça lui. Bon, et puis après, bon, c'est des détails qui n'ont pas forcément... Voilà. Dictature communiste plus expansion du capitalisme. Bon, ça, on connaît tous déjà un petit peu, quoi. Et pourquoi donc l'imagination illibérale comme titre de chronique, Bergerus 1908, pourquoi ce titre? Eh bien, parce qu'on se regarde dans le miroir, ça c'est un extraterrestre, parce qu'on se regarde dans le miroir. Enfin, on regarde tel qu'on est réellement, tel que voir comment ça se passe. On croit être libre, etc., alors qu'on ne l'est pas, nous occidentaux. Nous ne le sommes pas. Et en plus, donc on se voit dans la glace et on voit les secousses, on voit notre corps qui fait des secousses comme un épileptique, quoi. Et là, vraiment, on a accès au côté invisible avec l'épilepsie. On voit les secousses et on voit la réalité. D'où le titre, d'où mes choix pour ces morceaux de musique qui étaient The Man in the Glass par James Brown et Secousse, S-E-K-O-U-2-S par Manu Dibango. On écoute la Bergerus tous les jours sur Jet FM. Johnny Tubek and Elmo Traps. 14h. Trust is a ruin for tune. Le mercredi par quinzaine, 21h.